Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Marc Toiti. Bonjour Marc Toiti.
Bonjour Annick, bonjour à toutes et à tous.
De vous retrouver, vous êtes économiste, président du cabinet ACD EFI et vous publiez votre nouveau livre Reset 2, bienvenue dans le monde d'après, qui est un peu la suite logique de vos analyses, de vos conclusions que l'on a eues dans Crash, Boom et demain le monde de bulles, surtout quand la zone euro explosera. Et ce monde de bulles, agrémenté finalement de ces événements que sont la crise sanitaire et puis évidemment la guerre en Ukraine. Avant d'aborder la sortie de ce livre, Marc Toiti, je vais quand même poser cette question d'actualité et avoir votre opinion là-dessus, puisque vous êtes l'un des rares économistes qui voyait les choses et c'est reconnu en plus. On nous avait expliqué il y a 6 mois qu'on allait mettre l'économie russe à terre. Bruno Le Maire avait notamment expliqué ça, qu'il allait faire mordre la poussière aux Russes. Et 6 mois plus tard, on nous demande d'acheter des couvertures pour cet hiver et de nous habituer à prendre des douches froides. Voilà. Qu'en pensez-vous ?
Bah oui, c'est assez dramatique. Hein. Le manque, si vous voulez, d'anticipation, de vista, finalement, de nos dirigeants fait assez froid dans le dos. Alors, ça n'a pas commencé avec, finalement, la guerre en Ukraine. Hein. Déjà, rappelez-vous, on lui disait, mais non, vous inquiétez pas, il n'y aurait pas d'inflation, tout se passerait bien dans le meilleur des mondes. Alors que, justement, j'annonçais dans Reset 1, déjà, qu'il y avait un peu d'inflation, et puis dernièrement également. Et tout ça, malheureusement, c'est poursuivi et on a voulu, entre guillemets, je dirais, punir la Russie. Alors, pourquoi pas, hein, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Et donc, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on se rende compte, une fois que le mal est fait, que nous avons des problèmes d'approvisionnement en électricité, en gaz, je dirais en énergie au sens large, que la moitié de nos centrales nucléaires ne sont pas utilisées, hein, parce qu'elles sont, comme on n'a pas suffisamment investi, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas les utiliser à plein. Donc évidemment qu'on a maintenant, on n'a pas les moyens de nos ambitions, on n'a pas les moyens des sanctions qu'on voulait prendre. Et là où c'est encore plus dramatique, c'est que malheureusement aujourd'hui, nous retombons dans une récession. C'est-à-dire que quand on voit effectivement l'activité économique qui, bon, certes, a été sauvée en France cet été par le tourisme, mais à part ça, la récession est de retour dans l'ensemble de la zone euro, également en France. On a un euro qui est en train de s'effondrer, on a une crise de la zone euro qui est en train de se produire. Donc ça, c'est effectivement le monde d'après, malheureusement. Et parallèlement, on a donc cette inflation qui n'en finit plus et qu'on n'arrive pas, là aussi, à maîtriser. Donc, encore une fois, c'est d'ailleurs la question que je pose dans le livre, pourquoi a-t-on pris ce risque, finalement, de laisser faire cette guerre? Il fallait tout faire pour l'éviter, bien entendu. Et ensuite, les sanctions, comme on n'a pas les moyens de les maintenir, entre guillemets, eh bien, elles se retournent contre nous. Là aussi, on savait depuis le début que 60% du gaz allemand vient de Russie. Donc, évidemment, au début, on devait boycotter, je dirais, les produits russes. Après, on s'est rendu compte que finalement, c'était eux qui nous boycottaient. Donc, bon, ce n'est pas très sérieux tout ça. Et puis surtout, ce n'est pas de nature à améliorer, je dirais, la crédibilité de nos dirigeants. Or, aujourd'hui, on a une crise de confiance. Ça, il faut bien le souligner. Notamment, si on regarde l'indice INSEE de confiance des ménages, c'est assez incroyable. Il est quasiment sur des plus bas historiques, plus bas que pendant le printemps 2020 en pleine pandémie, plus bas que pendant les gilets jaunes. Donc, la dernière fois qu'on a eu des niveaux plus bas, c'était quand il y avait des craintes d'attentats en France, etc. Donc, tout ça montre que on est en train de prendre, je dirais, des risques énormes et on n'a pas, encore une fois, les moyens de soutenir ces risques, les moyens de nos ambitions. Mais bon, c'est classique, hein. On est très très bon pour donner des conseils, pour donner des avertissements, et puis après, devant la réalité économique, là, malheureusement, on est un petit peu moins bon. Donc c'est malheureusement pas nouveau, mais aujourd'hui, c'est vrai que demander aux Français de se serrer la ceinture, après déjà 2 ans de pandémie, on a lâché la dette publique un peu n'importe comment, on se dit c'est quand même pas très sérieux tout ça.
Alors, vous n'êtes pas psychiatre ni psychologue, vous êtes économiste, Marc Toiti. Lors du premier conseil de ministre de la rentrée, quand même, Emmanuel Macron a dit cette phrase très intéressante. Nous vivons la fin de l'abondance. Le « nous vivons la fin de l'abondance » signifierait finalement que c'est la Terre, que c'est le monde qui n'est plus pareil. Donc, c'est-à-dire qu'on décharge sa responsabilité personnelle, celle du chef de famille, en quelque sorte, sur la faillite du foyer. France, on le décharge sur la fatalité. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une question de compétences et de choix qui ont été faits.
Complètement. Moi, ce qui me rend un petit peu fou, d'ailleurs, je le dis dans le livre, hein, très clairement, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, encore une fois, est lié à des erreurs de stratégie, de politique économique et monétaire de nos dirigeants. Parce que c'est facile de dire, oui, c'est à cause de la guerre en Ukraine, ça, c'est le bouc émissaire idéal. Non, non. N'oublions pas que l'inflation a commencé en 2021, justement parce que les dirigeants politiques de la zone euro, et notamment français, ont augmenté un peu n'importe comment la dette publique, sans regarder où, effectivement, les deniers publics passaient. Et donc, parallèlement, cette dette publique était achetée par la Banque Centrale Européenne, au travers de ce qu'on appelle la planche à billets. Donc, on a augmenté artificiellement la demande, si vous voulez, donc, alors que l'offre, c'est-à-dire la production, ne suivait pas. Donc ça, c'est la règle de base de l'économie. Si la demande est supérieure à l'offre, eh bien, l'inflation augmente. Et ça, il ne faut pas être un grand devin ou un grand économiste pour le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Mais malheureusement, nos dirigeants, soit ils ne l'ont pas compris, ou alors ils ont fait du déni de réalité. Ça qui est extrêmement grave. Il y a encore quelques mois, la présidente de la Banque Centrale Européenne, ou même les dirigeants français disaient « Non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'inflation, ça va, c'est temporaire, ça ne va pas durer. » Alors que, encore une fois, je ne suis pas devin, mais je l'annonçais déjà dès 2021 que cette inflation allait augmenter avant même la guerre en Ukraine. Évidemment, cette guerre en Ukraine
a mis de l'huile sur le feu. Vous ne l'avez pas simplement annoncé, vous l'avez écrit.
Ah oui, bien sûr, je l'ai écrit, je l'ai même dit à Bruno Le Maire. Hein, je veux dire, malheureusement, ils ne m'ont pas écouté. Mais le problème est là, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, ce qui se passe, c'est parce qu'on a utilisé toutes nos cartouches pendant la pandémie, alors que justement, il fallait agir à l'époque, comme vous l'avez bien dit, en père de famille, et regarder la réalité en face, expliquer aux Français, et ne pas sombrer non plus dans le défaitisme ou dans l'enfermement, parce que c'est un petit peu ce qui s'est produit, entre guillemets. On dit, c'est pas grave, on enferme les gens, et puis on va lâcher de la dette publique, et tout va bien se passer. Ça c'était une grave erreur que nous payons effectivement aujourd'hui. Et donc le drame, c'est que, d'ailleurs je l'évoquais dans Reset 1, mon livre d'avant, c'est que je disais attention, parce que quand si on utilise toutes nos cartouches, et bien à ce moment-là, quand va arriver la nouvelle crise, et bien on n'aura plus de cartouches pour relancer la machine. Alors c'est vrai que normalement les crises c'est tous les 7 à 10 ans, là le problème c'est que c'est arrivé 2 ans après. Donc là on n'a absolument aucune cartouche pour relancer la machine, donc c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'aujourd'hui donc, le président français a priori donc, nous dit, déjà nous dire que c'est la fin de l'insouciance. Je vois pas où il y avait de l'insouciance pendant 2 ans, parce qu'on était en pandémie, il y avait des pénuries un peu partout, et puis parallèlement l'abondance, de quelle abondance s'agit-il? Vous voyez, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, ce discours moi me paraît extrêmement dangereux, sachant qu'encore une fois, c'est lié aux erreurs de politique économique de nos dirigeants. Et donc, c'est sûr que aujourd'hui, comme on n'a plus de cartouches pour relancer la machine, ça devient extrêmement compliqué. Mais, encore une fois, faire porter la responsabilité sur les Français, enfin, du moins sur les citoyens, je trouve ça un petit peu fort de café, si vous me permettez l'expression. Et donc, c'est quand même, encore une fois, aujourd'hui, on a besoin d'être responsabilisé. Je pense que justement, j'ai fait un chapitre dans le livre Reset 2, qui s'intitule « L'échelle des valeurs est tombée ». Je pense qu'on a perdu, justement, l'échelle des valeurs. C'est-à-dire que la valeur travail a été complètement bafouée. On a laissé croire qu'on pouvait, comme ça, continuer à vivre enfermé chez soi et en touchant un revenu. On ne sait pas d'où sortait d'ailleurs. Voilà, ça, c'est extrêmement dangereux. Et alors que on le voit aujourd'hui. Hein, il y a des entreprises qui ne peuvent pas produire parce qu'il n'y a, pas de main-d'œuvre. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. Non pas que le chômage soit si bas que ça, mais non, mais simplement, il n'y a ni les formations, ni la volonté. Donc ça, qui est quand même assez incroyable. J'ai eu des cas d'entreprises qui refusent des carnets de commandes, donc ils refusent des commandes, donc du business, parce qu'elles n'ont pas la main d'œuvre, parce qu'elles n'ont pas la population justement pour répondre à cette demande. C'est assez incroyable, vous voyez. Donc tout ça pour dire, alors que n'oublions pas qu'on a un taux de chômage, on va dire au sens large, de 6 millions de personnes, hein, quand même pas oublié. Donc tout ça pour dire que voilà, on a perdu cette échelle des valeurs. Et pareil avec ce que j'appelle cet argent magique. On a lâché comme ça l'argent n'importe comment, sans regarder où on le mettait. Et encore une fois, ça n'a pas généré de croissance forte. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le niveau du PIB français, hors inflation, est encore inférieur à celui qu'on avait en 2019, malgré qu'on a augmenté la dette publique de 560 milliards d'euros. Donc, où est l'argent? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est que moi je pense, je suis pour dire la vérité. C'est ce que je fais dans mes livres et ailleurs, et avec vous là en ce moment. C'est vrai que, d'ailleurs, j'ai dédié le livre à toutes celles et tous ceux qui recherchent la vérité. Parce que je pense que c'est le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on est dans le déni de réalité permanent. Donc il faut dire la vérité aux Français, même si des fois c'est pas facile à dire, c'est vrai, mais au moins on sait à quoi s'en tenir. Nous dirigeants, depuis des années d'ailleurs, ont continuellement pratiqué le déni de réalité. Et c'est très dangereux parce que quand on est face à la réalité, comme on n'est pas prévenu, on ne comprend pas ce qui se passe. Regardez, vous avez commencé, c'était votre première question sur la Russie. On a dit, on va mettre la Russie à terre. Puis là, on se rend compte que finalement, c'est nous qui sommes en récession. Donc, les Français ne comprennent pas. On a dit aux Français, il n'y aura
pas
d'inflation.
Et pas les Russes.
Voilà. Et alors là, sur l'inflation, on a dit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'inflation. Et là, on voit l'inflation qui explose. Donc, on le savait très bien, encore une fois, que ça allait générer cette inflation. Pourquoi a-t-on menti? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, si vous voulez. Les Français ne sont pas des enfants, vous voyez. Enfin, il y en a quand même, mais globalement, il faut dire la vérité, il faut expliquer, faire de la pédagogie, responsabiliser les Français. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans cette crise de la pandémie, encore aujourd'hui, on a déresponsabilisé les Français. Et donc, on nous dit, voilà, encore aujourd'hui, j'entends, hier, je faisais un débat, là, justement, sur BFM TV, là, avec, il y avait une représentante de la France Insoumise, qui dit, ah ben non, mais il faut encore augmenter la dette publique, faut y aller, on y va. Mais, évidemment, on a tous besoin, envie, on va dire, d'augmenter la dette publique, etc. Mais encore une fois, on n'a pas les moyens de nos ambitions. Et surtout, on fait prendre des risques énormes à nos enfants. Vous voyez, c'est-à-dire que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter justement sur cette dette publique, parce que maintenant la BCE ne peut plus financer. Et donc à partir de là, on va avoir la double peine, voire la triple peine. Une inflation, une récession et des taux d'intérêt qui augmentent. Non, c'est pas sérieux. Donc moi je pense qu'on a besoin de dirigeants qui, encore une fois, fassent passer la réalité et on va dire l'intérêt des Français avant toute chose. Il faut arrêter de faire du marketing pour faire du marketing. Et là aujourd'hui, moi ça me révolte lorsqu'on me dit qu'on va devoir se serrer la ceinture, qu'on va arrêter, qu'il faut plus consommer, qu'il faut plus faire ci, qu'il faut plus faire ça. Encore une fois, nous ne sommes pas des enfants. Donc tout le problème est là aujourd'hui. On doit responsabiliser les Français.
Ça veut dire en plus que si on ne consomme plus, si on serre la ceinture, on va encore continuer de descendre des marches alors que les autres vont continuer de monter.
Ah bah bien sûr, c'est-à-dire...
Parce que le titre de votre livre, il est très intéressant. Reset 2, bienvenue dans le monde d'après. Généralement, comme vous l'avez dit dans votre premier livre, vous l'avez souvent dit, quand on fait un reset, on débranche la prise électrique, on attend quelques secondes, on rebranche la prise et l'ordinateur repart. Mais là, c'est un reset planétaire. Cela signifie qu'on n'est pas dans une crise où on va repartir. J'ai l'impression qu'on a beau rebrancher, nous, côté Occident, côté Europe plus particulièrement, Europe du Sud, je dis bien l'Europe du Sud parce qu'on est dans l'idéologie. L'Europe du Nord n'est pas dans l'idéologie. Je pense déjà, d'après les infos qui commencent à circuler, que l'Allemagne est déjà prête pour sauver sa production et son industrie à aller serrer la pince dans le plus grand secret à Vladimir Poutine, c'est-à-dire à leur faire des chèques en rouble, si ça leur plaît. Nous, on est dans l'idéologie. Et on aura beau rebrancher la prise de notre ordinateur, ça ne redémarrera pas. C'est ce que je crains.
Exactement, c'est ça le problème. Il y avait un premier reset, donc c'était la pandémie. On va appuyer sur le bouton reset et ça a redémarré, sauf que c'est pire qu'avant. D'où effectivement ce reset 2 en disant il faut faire un deuxième reset, parce que malheureusement, on se rend bien compte que ça n'a pas fonctionné. Sauf que vous l'avez bien dit, je pense que malheureusement vous avez raison, c'est que ce reset 2, les dindons de la farce risquent encore d'être la zone euro, les Européens, les Français. Et donc d'ailleurs à la fin du livre, parce que je voulais pas terminer sur une note trop pessimiste, donc j'ai fait une fin alternative, vous savez, comme dans les films entre guillemets, en disant voilà, on a le choix entre guillemets entre le courage et je dirais à ce moment-là on repartira sur une économie dynamique, sur de la croissance, etc. Ou alors la fuite en avant, et là à la fin ça se terminera très mal avec le thème la fin de la zone euro et beaucoup de problèmes effectivement pour l'ensemble des citoyens, des entreprises françaises. Donc voilà, on a le choix encore une fois, mais tout le problème c'est d'avoir le courage simplement et faire de la pédagogie là aussi, parce que on ne peut pas dire aux Français oui moi j'ai tout compris, tout va bien, je sais ce qu'il faut faire, et évidemment ça ne fonctionne pas. Donc il faut aujourd'hui expliquer et montrer également l'exemple. Ça aussi, c'est très important. Et malheureusement, ce n'est pas ce que font, je dirais, nos dirigeants. Et puis, bien sûr, le problème, c'est que dans le livre, alors justement, j'ai fait un chapitre également pour savoir finalement qui seront les gagnants, qui seront les perdants. Et c'est assez incroyable de voir qu'aujourd'hui, où nous parlons, alors l'histoire n'est pas terminée, mais malheureusement, les grands gagnants de ces deux dernières crises, ce sont, numéro un, la Chine, qui reste sur une croissance forte et qui a complètement dirigé la pandémie. Alors évidemment, c'est une dictature, donc on ne dit pas qu'il faut devenir chinois, bien évidemment, on s'en fout. Hein. Mais néanmoins, c'est vrai que les Chinois sont les grands gagnants de la crise qu'ils ont eux-mêmes provoquée finalement avec cette pandémie. Alors bon, on ne va pas revenir sur le début de la pandémie, mais néanmoins, on a cette situation incroyable et un chiffre complètement fou, où les Chinois, depuis la pandémie, ne cessent de battre des records d'excédents commerciaux. C'est-à-dire, justement, dans le reset 1, je m'étais dit, on va peut-être stopper nos achats de produits chinois à cause de cette pandémie en disant, ça suffit maintenant, on va peut-être mettre des normes aux produits chinois, des normes sanitaires, des normes démocratiques, etc. Et pas du tout. Les derniers chiffres montrent qu'on est à plus de 850 milliards de dollars d'excédents commerciaux de la Chine. Donc, c'est assez incroyable. Donc, on n'a rien compris, si vous voulez, c'est encore pire qu'avant. Deuxième gagnant, c'est l'Inde, qui est effectivement rattrape également. Et alors là, c'est la grande surprise, troisième gagnant, la Russie. C'est-à-dire que la Russie aussi n'a jamais fait autant d'excédents commerciaux et de la balance courante depuis le début de la guerre. Donc évidemment, elle souffre en interne, ça c'est sûr qu'il y a une situation compliquée, mais je pense que vous l'avez dit, c'est-à-dire que nous ne sommes pas suffisamment forts, je pense, pour affronter les difficultés. Et donc c'est bien beau, effectivement, d'avoir des bonnes intentions, mais encore une fois, quand vous voyez, par exemple, l'ampleur des aides qu'on a mis en France et celles qu'on a mis en Russie, vous savez combien on a donné d'aides en Russie? Zéro. Donc, et pourtant, la population s'en est sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
parce qu'il n'y a pas eu de confinement?
Déjà, mais surtout...
Il y a eu des incitations à la prudence.
Voilà, exactement.
Il y a eu des incitations à la prudence. Il n'y a pas eu de confinement. Et les contraventions, quand le maire de Moscou a voulu faire du zèle, je crois, les contraventions ont toutes été annulées et remboursées à la population.
Oui, bien sûr. Non, mais puis surtout, encore une fois, le gros problème, c'est que, alors bien sûr, je ne parle pas des trois premiers mois de la pandémie, on ne savait pas ce qui se passe, etc. Mais c'est surtout après. En fait, sinon, c'était de la facilité. On enfermait les gens, on leur donnait des aides et débrouillez-vous. Mais ce n'est pas, pour moi, je dirais, une bonne manière d'affronter les crises. Parce que justement, là, on a contourné, mais il faut affronter les crises. Nous, on les affronte pas. Et donc, on n'est pas du tout aguerri. Moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que les populations européennes, si vous voulez, notamment françaises, ne sont pas du tout aguerries aux difficultés. Et donc, quand on voit ces difficultés, vous voyez, par exemple, on me dit aujourd'hui, oui, il y a pas assez d'aide en France, etc. Enfin, la France est numéro un mondial des dépenses sociales. C'est 32% de notre PIB. Alors que la moyenne de la zone, de l'OCDE, des pays riches, c'est 20%. Donc, vous voyez, on est des enfants gâtés et on se considère comme des dépourvus d'aide. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que malheureusement, on ne regarde pas cette réalité en face.
Des enfants gâtés qui croient qu'ils font la guerre en mettant des drapeaux ukrainiens sur Facebook ou sur TikTok.
Notamment, par exemple. Ça, c'est sûr. Malheureusement. Moi, je pense que tout ça, c'est beaucoup plus profond, si vous voulez. Ce que j'ai également dans le livre, c'est philosophique. C'est un problème, de déni de réalité et finalement de courage. Tout simplement, on ne veut pas voir la réalité en face. Avant, c'est vrai qu'on disait, c'était la nature de certains hauts fonctionnaires, etc., qui disaient, quand un mur était rouge, dès qu'il était bleu. Il fallait, même s'il était rouge, on dit que c'était bleu. Mais alors ça, c'était le fonctionnaire. Maintenant, toute la population, ou une grande partie, commence à penser comme ça. C'est ça qui est très dangereux. C'est-à-dire que, il faut regarder la réalité.
Celui qui dit
que
le mur est rouge, on dit qu'il est complotiste et puis d'extrême droite. Alors,
Mais c'est pour ça, mais encore une fois, justement, sur ma chaîne YouTube qui marche très bien, d'ailleurs, c'est vrai que je suis très, très, très content et même surpris parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a une vraie demande de pédagogie de l'économie, de dire la vérité. Moi, je suis ni pour tel ou tel, si vous voulez. Alors, bien sûr, moi, je suis pour la France, pour notre pays. Je veux que notre pays s'en sorte, bien entendu. Mais c'est clair que aujourd'hui, c'est pas parce qu'on dit que la Russie fait un excédent commercial record qu'on est pro-russe. Ce que je veux dire, c'est juste, c'est une réalité. C'est tout. C'est pas parce qu'on dit que le déficit commercial français est aussi un record, donc en termes de déficit, qu'on n'a jamais vu ça. C'est pas parce qu'on dit ça qu'on fait du French bashing. Non, on dit une réalité. Et donc, il faut réagir en conséquence, tout simplement.
Alors, n'êtes-vous pas aussi inquiet, outre la situation internationale, dans ce grand reset, le fait que l'on se, parfois, on met des poids pour s'enfoncer et pour se couler? Je vais vous donner un exemple précis. En ce moment, avec les normes de la Banque de France, les prêts immobiliers sont refusés à moitié par les banques. Les investisseurs quittent le marché immobilier en raison de la loi climat, sur ces fameux DPE, E, F, G, etc. On nous dit qu'on ne peut pas attendre, alors qu'on aurait pu peut-être étaler cela, et même si les gens n'ont plus les moyens de faire les travaux, même si on sait que les entreprises françaises n'ont pas les moyens pendant 3 ans, si elles mobilisaient 24 heures sur 24, tous leurs artisans sur tous les chantiers, elles ne pourraient pas remettre en normes acceptables les logements qui ont un mauvais DPE. Malgré tout, on poursuit et on va mettre des milliers et des milliers de gens à la rue sans logement. Il y a plein de choses comme ça. Après, quand quelque chose ne va pas, on nous dit qu'il faut interdire les jets privés, il faut interdire les piscines privées.
Oui, ben c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que malheureusement, on est dans le dogmatisme, si vous voulez. Donc tout le problème est là aujourd'hui. Alors il n'y a pas que nous, hein. C'est comme quand les Allemands ont voulu arrêter les centrales nucléaires, justement, et maintenant ils sont bien pris mal au dépourvu, évidemment, et en grande difficulté. Donc bon, tout ça pour dire que malheureusement aujourd'hui, ce dogmatisme nous coûte extrêmement cher. Et donc, encore une fois, bien sûr, moi j'ai également fait un chapitre sur le réchauffement climatique, la décroissance, tout ça, bien entendu, parce que c'est bon, il faut en parler, c'est sûr. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on nous propose? Si vous nous dites, non, bon, on va tout arrêter, voilà, on va moins consommer, on va. Non, mais c'est pas ça l'avenir, parce que la décroissance. Extrêmement dangereux. La décroissance peut détruire effectivement la planète. Pas dans le sens, je dirais, écologique, mais dans le sens.
La guerre.
Je dirais, sociale
et
sociétale. Parce que s'il y a de la décroissance, il y a du chômage et il y a évidemment du malaise social. Non, par contre, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est justement ce que j'explique dans le livre, ben, il faut développer l'innovation. Alors pourquoi pas, bien sûr, jouer la carte effectivement de l'économie verte, entre guillemets, mais à ce moment-là, avec de la croissance, avec de l'innovation. Et ça, nous aussi, malheureusement, les Français, on est très en retard. Alors qu'on était en avance dans les années 80, on est en 2022 et maintenant on est effectivement très en retard. Donc c'est ça le vrai enjeu. Il faut innover, il faut donner les moyens également d'innover, mais c'est pas en interdisant, encore une fois, ou en mettant des taxes, en mettant des contraintes administratives qu'on va solutionner le problème. Là, c'est plutôt, je dirais, un frein à l'activité et un frein, je dirais, au bien-être des Français.
On aurait pu faire la même interview et vous auriez eu les mêmes propos, et ça, j'en suis certain, il y a 20 ans. Ou il y a 30 ans. Et rien
ah oui,
bouge.
Oui, bah, de toute façon. Ben, moi, parce que ça fait 25 ans que je fais ce métier. Alors, c'est vrai que, même plus maintenant, c'est vrai qu'au début, j'avais, on va dire, l'optimisme, on va dire, de la jeunesse, entre guillemets, hein. Mais c'est vrai que,
Ou la naïveté.
Moi, je pensais. Ou peut-être aussi. Non, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours, encore une fois, moi, je suis là pour essayer de sauver notre douce France, parce que c'est le but du jeu, si vous voulez, hein. Donc, j'ai milité, entre guillemets, justement, auprès des dirigeants politiques français pour justement sauver la France, prendre les bonnes mesures depuis des années. Et puis, malheureusement, c'est vrai que j'ai commencé à être un petit peu moins optimiste en 2003, lorsque, effectivement, Jacques Chirac avait été réélu avec, donc, 80% des voix, on s'en souvient, plus de 80%, et puis c'était son deuxième mandat, donc il avait rien à perdre. Et puis, j'avais fait des propositions, etc. Et puis, on m'a dit, non, merci beaucoup, mais on ne fera rien. Donc, bon, j'ai compris que là on avait un petit problème, et puis après malheureusement ça s'est aggravé, la situation s'est aggravée. Donc c'est vrai que ça qui est triste, c'est que le mur était loin, donc on disait bon, on a le temps, on klaxonnait, etc. Puis maintenant là on est vraiment dans le mur, donc c'est un petit peu compliqué pour moderniser notre économie. Et donc c'est vrai que je suis un petit peu triste de cela, mais bon, je veux garder quand même l'espoir, mais il faut surtout être réaliste, et c'est comme ça qu'on sauvera effectivement l'économie française. J'ai d'ailleurs un chapitre justement pour la thérapie de choc bienveillante, hein, comment sauver l'économie française dans le livre, parce que c'est toujours possible, mais encore une fois, il faut avoir le courage et la volonté de le faire, ce que malheureusement je n'ai plus l'impression que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui m'inquiète, hein. C'est l'une des conséquences de la pandémie, c'est qu'on n'a plus ce courage, malheureusement, d'affronter la réalité.
Un livre passionnant qui va incontestablement être un succès de librairie plus que les autres, j'en suis convaincu.
Merci, merci
beaucoup. Je vais vous dire aussi pourquoi, c'est pas simplement de la simple flatterie. On sait que les gens achètent les antivirus pour les ordinateurs quand ils ont été plantés, hein. Une fois, hein. Les gens achètent des livres de couple pour sauver le couple quand ils ont été largués, une fois. Les gens vont acheter des bouquins d'économie maintenant quand ils vont prendre une douche froide, quand ils vont être obligés de se couvrir et quand ils vont comprendre, même ceux qui n'étaient pas touchés, les classes moyennes, que qu'il va falloir compter quand on remplit son caddie au supermarché. Donc là, à partir de là, on va commencer à s'intéresser à l'économie.
Alors peut-être que ça sera
la bonne nouvelle.
Vous avez raison. Voilà, peut-être la bonne nouvelle. Peut-être là, on prendra les bonnes mesures pour sauver notre douce France, parce que on le mérite. Hein. On a un pays qui est formidable. On le dit pas assez. Ça serait quand même dommage de
vous qui voyagez beaucoup, on le sait, hein. Vous qui voyagez beaucoup.
Ah oui, tout à fait. Moi, je peux dire que vous voyagez à travers le monde. Je peux vous dire qu'on a une chance incroyable d'être en France. Et il faut simplement garder cette chance et faire en sorte qu'on arrive à s'en sortir et arrêter la démagogie. C'est ça le vrai enjeu.
Marc Touati, l'économiste Marc Touati, avec son livre Reset 2. Bienvenue dans le monde d'après. Et surtout, le sous-titre est important. Le pire n'est jamais certain. Nous pouvons encore l'éviter. C'est le nouveau livre de Marc Touati. On le trouve facilement dans toutes les grandes librairies en ligne, hein, notamment sur Amazon.
Oui, tout à fait.
Merci encore,
merci à vous.
Marc Touati.
Avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir.